Chapitre 12. Les jardiniers habitaient généralement Paris pendant l'hiver et le printemps. Cette année-là, ils passèrent plusieurs mois dans le Midi pour la santé d'Ismène et ne revinrent qu'à la fin de mars. Ismène se sentait mieux. Elle annonça, en mettant le pied sur le quai de la gare, qu'elle était prête à reprendre la vie tourbillonnante qui lui paraissait la seule possible. « Mais tu sais bien que les médecins t'ont recommandé une existence tranquille, » dit Madame Jarlier. « Les médecins, mais, très chère maman, vous n'ignorez pas en quelle profonde considération je les tiens et le cas que je fais de leurs prescriptions. Si j'accepte de me soigner pendant quelques mois, c'est pour vivre après, vivre, c'est-à-dire m'agiter, me dépenser, m'amuser. Autrement, foin de tous les remèdes et de toutes les cures. » Sur cette profession de foi, Ismène s'empara du bras de sa sœur et lui chuchota à l'oreille « Eh bien, ton pieux époux t'a-t-il converti, Florie ?» Florian eut un doux sourire ironique. « Ignores-tu, mignonne, que sauf d'assez rares exceptions, c'est la femme qui convertit son mari ?» Ismène se mit à rire en jetant un coup d'œil vers Bruno qui causait avec son beau-père. « Oui, oui, alors c'est toi qui... » « C'est moi qui le convertis, » déclara tranquillement Floriane. « Tant mieux. Figure-toi que je craignais un peu, oh, très peu, que ce fût le contraire. Me connais-tu vraiment si mal ? Oh, tu sais, on voit des choses extraordinaires. Monsieur de Marge a bien converti sa femme, lui. » Floriane sourit encore, avec la même ironie douce, en répliquant « Oh, cher, je ne suis pas Madame de Marge et Bruno n'est pas Monsieur de Marge. » La présence à Paris de la famille Jarlier ne changea en rien l'existence du jeune ménage. Florian avait pour les siens une affection très calme qui se contentait fort bien d'une visite une ou deux fois dans la semaine et d'un dîner de temps à autre. Parfois, elle les retrouvait au cours d'une soirée ou d'une réunion quelconque. Car Bruno, conseillé par elle, fréquentait le monde et nouait d'utiles relations. Floriane connaissait à fond l'art de s'insinuer partout, de s'imposer grâce à son charme et à son intelligence. Par les Demarges, qui habitaient Paris tout l'hiver, elle pénétra même dans le faubourg Saint-Germain. Le premier ouvrage de Bruno avait fait connaître très favorablement son nom. Lui-même plut par sa distinction, ses qualités intellectuelles et la beauté expressive de ses yeux bleus. Sa nouvelle œuvre, Croquis d'Anjou, à peine parue, fut un succès. On déclara, sans trop d'exagération d'ailleurs, que la France possédait un grand écrivain de plus. « À quand un autre ouvrage ?» demanda un jour M. de Marge à Bruno. Sa femme et lui étaient venus dîner chez les jeunes Ferrières quelques jours avant leur départ pour l'Anjou, qu'ils regagnaient toujours vers Pâques. Florian et Hélène causaient dans le salon, tandis que les deux hommes, qui ne fumaient pas, s'entretenaient debout dans le cabinet de Bruno. « Il sera terminé à la fin de l'été. Je compte qu'il paraîtra vers le milieu de l'automne. Est-il permis de t'en demander le sujet ?»« Le sujet ? Eh bien... » « Mais non, tu verras, je ne veux rien t'en dire d'avance. » Henri se figura sentir une gêne sous le ton enjoué. Il songea, aurait-il déjà évolué ? Mais il ne dit mot de cette inquiétude à Madame Ferrière en la voyant assargée. C'était assez, déjà, de lui confirmer que son fils ne viendrait pas avant le mois d'août. Son travail le retenait à Paris et Florian, en outre, était un peu fatigué. Ces raisons, données par lui dans ses lettres aux siens, furent répétées par Henri et Hélène, qui n'y croyaient qu'à demi. Madame Ferrière ne fit pas de réflexion à ce sujet. Mais la perspective même d'être bientôt grand-mère n'effaça pas le pli soucieux de son front. Bruno n'avait pas renoncé sans regret à ce voyage. Il restait attaché par des fibres très intimes aux siens, à son pays natal. Il sentait aussi comme un vague besoin de respirer l'atmosphère familiale et d'y retremper son âme engourdie. Mais Florian lui avait démontré qu'il serait déraisonnable de quitter Paris au moment où il se trouvait en pleine veine de travail. Puis elle devenait languissante, vite lasse. Ce voyage, ce court séjour serait une fatigue. Bruno, il est vrai, pouvait partir seul. Mais ce serait très dur pour elle. « Oh non, pas sans toi, ma Florie aimée » s'écria-t-il. « Nous n'irons pas à Sarger maintenant, voilà tout. Mais nous y séjournerons plus longtemps cet été. » Ceci convenu, Bruno se remit de plus belle au travail. Le plan primitif de son ouvrage subissait, en cours de rédaction, de notables changements inspirés par Floriane. Celle-ci, avec son joli rire tendre, reprochait à son mari ce qu'elle appelait son effarouchement. « Tu es un délicieux puritain, mon ami, et je t'aime ainsi. Mais sois un peu plus hardi dans tes ouvrages. Je t'assure que ce sera mieux. » Elle lui citait l'avis de célébrités littéraires qui jugeaient Bruno Ferrière capable d'arriver très loin, pourvu qu'il ne s'enlisât pas dans des scrupules rétrogrades. Bruno résistait, comme il avait résisté d'abord quand il s'était agi d'entendre au théâtre certaines œuvres que réprouvait sa conscience de croyant. Il continuait l'ouvrage selon son idée. Floriane, sans rancune, l'embrassait en disant « Ah, le cher exagéré !» Quelques jours plus tard, les pages déjà écrites disparaissaient et une nouvelle rédaction développait l'autre idée, celle de Floriane. Bruno cédait, comme il avait cédé pour le théâtre, comme il cédait pour tout, en se leurrant de cette pensée qu'il devait d'abord, pour le bien de Floriane, éviter toute apparence d'intransigeance. Et tel était son aveuglement qu'il ne songeait pas à s'inquiéter de l'affaiblissement du sens moral dont témoignaient trop souvent les goûts et les idées de cette jeune femme. Il ne souffrait pas d'être incompris d'elle dans la délicatesse de ses sentiments chrétiens. Ceci, bien que s'émoussant chaque jour, existait encore cependant. Mais la passion couvrait d'un voile l'âme de Bruno et la rendait, de plus en plus, insensible à ce qui n'était pas Floriane. En août, les deux jeunes gens arrivèrent à la Hermelière. Madame Ferrière aurait voulu les avoir chez elle pour reprendre avec son fils quelque peu les rapports d'autrefois. Mais elle ne pouvait rien objecter au désir de Floriane de se trouver près de sa mère, dans son état de santé surtout. « Nous vous aurions gêné, » dit Floriane avec sa grâce tranquille, quand Madame Ferrière exprima à Bruno son regret. « Notre fils et la femme de notre fils ne nous gêneront jamais. Ma mère tenait beaucoup à m'avoir, mais vous nous verrez souvent et vous viendrez à la Hermelière. » Le regard perspicace de la mère discerna, chez Bruno, un changement qui n'existait pas encore lorsqu'elle l'avait revu à Paris. Il lui parut moins simple, moins affectueux, un peu détaché de tout ce qui, l'année précédente encore, faisait vibrer son cœur. Et elle constata avec angoisse qu'il ne subsistait plus rien de l'expression qu'elle avait aimée dans les yeux de son fils. Elle espérait, pendant son séjour à la Hermelière, le voir souvent, l'étudier, l'interroger discrètement, pour se rendre compte de son état moral, du degré d'influence de Floriane. Mais elle fut vite déçue. Sa belle-fille, très fatiguée, disait-elle, ne quittait guère la Hermelière et retenait son mari près d'elle. Bruno subissait joyeusement toutes ses exigences. Parents, amis, occupations comptaient bien peu devant un désir de Floriane. Et lorsque Madame Ferrière venait à la Hermelière, la jeune femme, sans affectation, arrivait à ne laisser presque jamais seule sa belle-mère et son mari. Elle accompagna Bruno quand il se rendit chez le curé de Sainte-Cécile et chez l'abbé Rivaud quelques jours après leur arrivée. Le vieux prêtre, lorsqu'ils se retirèrent, dit en serrant fortement la main de Bruno « Je te verrai un de ces jours, n'est-ce pas, mon petit ?»« Mais oui, monsieur le curé !» En revenant vers la Hermelière, dans la voiture de monsieur Jarlier, Floriane dit avec un sourire de douce ironie « C'est pour te confesser que ton curé t'attend ?»« Oui, c'est pour cela, Flori. » Elle eut un léger mouvement d'épaule. « Mon pauvre ami, que peux-tu avoir à dire? Ta vie est exemplaire. Te confesser de quoi, je me le demande. » Il murmura, « De t'aimer trop, peut-être. » Elle laissa échapper un petit rire amusé, un peu railleur. Sa main se posa sur celle de Bruno et la serra tendrement. « Ah, le cher fou, est-ce qu'on aime jamais trop? Mais je te défends bien de m'aimer moins, d'ailleurs. Je te le défends, Bruno. » Et je ne veux pas que tu ailles voir ce curé qui te monterait peut-être l'imagination à ce sujet. Mais, ma chérie, je dois... Tu dois me faire plaisir d'abord. Tu m'as dit un jour que tu ne pouvais rien me refuser. Est-ce vrai? C'est vrai. Eh bien, tu vas me promettre de ne pas retourner voir le curé de Sainte-Cécile. Tu me demandes une chose impossible. J'ai l'habitude de... Elle l'interrompit en murmurant d'un ton d'ardent reproche. Ah, tu ne m'aimes pas comme je t'aime. Je te sacrifierai tout, moi. Et tu me refuses cela, ce rien ? Florie, mais non, je ne te refuse rien. Je n'irai pas le voir puisque tu le désires. Mais il en sera bien peiné, mon pauvre vieux curé. Elle eut un léger sourire de triomphe, tandis que Bruno prenait ses mains et les serrait en la regardant avec amour. Il sera ennuyé surtout, je crois, de ne pouvoir te sermonner et te persuader que tu es un grand coupable. Oh, quelle idée ! L'excellent homme ne veut que mon bien, sois-en persuadé. C'est très possible, mais il ne le veut pas de la même manière que moi, probablement, et je ne souffrirai jamais qu'on m'enlève une parcelle de toi, de ta pensée, de ton cœur.